doctorante, doctorant ou jeune docteur, vous vous intéressez à l'entrepreneuriat et au concours iPhD, ce podcast est pour vous. Je m'appelle Élodie Chabrolet et avec mes invités, nous répondrons à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce concours. Et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast iPhD. Aujourd'hui, mes invités vont répondre à une question que beaucoup de chercheurs entrepreneurs se posent. Comment se payer ou pas? Comment faire financièrement la transition entre la recherche et la start-up? Pour y répondre avec moi aujourd'hui, j'ai Jérémy Paris de la société Sun. Bonjour Jérémy.
Bonjour Elodie.
J'ai Swahib Eldoutmani d'Entreview. Bonjour Swahib.
Salut Elodie.
Et Gaël Matten de Vibiscus. Bonjour Gaël.
Bonjour Elodie.
Alors est-ce que tous les trois, je vais passer au fur et à mesure, est-ce que vous pouvez un petit peu m'en dire plus sur les startups ou le projet, suivant où on en est, hein, et le niveau de maturité? On va commencer par Jérémy.
Oui, donc la société Sun a été créée en mois de novembre 2020.
Okay.
On est trois fondateurs, donc tous les trois on sort de l'université de Bourgogne.
Ouais.
Et on est une société qui est spécialisée dans la conception et fabrication de nanoparticules pour différents champs d'application, comme au niveau de la santé, comme les traitements anticancéreux, par exemple,
ouais.
Ou au niveau de la catalyse pour produire des médicaments.
D'accord. Et ça, tu l'as créé quand tu étais en thèse, en postdoc?
Non, je l'ai créé. On a fait 2 ans de maturation avec la SAT et ouais. Je l'ai créé après les 2 ans de maturation avec la SAT. Mais les travaux font partie de ma thèse, en fait.
Les travaux font partie de ta thèse. Ok, top. Swahib, toi, tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît?
Oui, d'accord. Alors moi, je suis CTO et cofondateur de la startup Entreview.
Ouais.
Donc, startup qui a été créée en juillet 2021. Donc là, on a 6 mois, pas encore l'anniversaire. CTO, c'est Chief Technical Officer.
Voilà. Ouais, je demande juste donc, parce qu'il y a certains qui ne seront peut-être pas encore
oui,
tout à fait...
effectivement, là aussi, il ouais. y a des discussions sur CEO, CTO, ce ouais, genre de choses. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une autre discussion. Et donc, ensuite, alors nous, qu'est-ce qu'on fait à Entreview? Nous, on fait du diagnostic, en fait, et de la caractérisation de batteries lithium.
D'accord.
Donc, en se basant sur une mesure qui est unique, en fait, qui est la mesure d'entropie des batteries. Voilà. Et donc, nous, on va plutôt aller résoudre des problématiques au niveau de la fin de chaîne de production, en fait, des usines de batteries.
Mm-hmm.
Donc, les Gigafactory, en fait, où on va diminuer le temps de test et mieux estimer la qualité des batteries. Et on va aussi se positionner pendant l'utilisation de la batterie, c'est-à-dire pour un véhicule électrique, faire un meilleur diagnostic afin, in fine, de pouvoir rallonger la durée de vie des batteries. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est à ce moment-là qu'on se positionne. Donc, on est vraiment... une startup qui fait du logiciel, voilà, pour être tout à fait clair. Voilà.
Et ça a été créé sur tes travaux de recherche aussi, sur tes travaux de thèse?
Voilà, effectivement, donc on a breveté une technologie pendant ma thèse, et donc ensuite j'ai enchaîné avec un postdoc avec la maturation, et derrière incubation, et finalement je suis parti à la recherche d'un associé plutôt business, donc c'est lui le CEO, et on a créé la startup quelques temps après mon postdoc, voilà.
Top, merci beaucoup. Puis on va parler justement de cette période de transition juste après. Gaël, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Vibiscus?
Oui, donc Vibiscus, c'est une startup qui n'est pas très vieille non plus, puisqu'on l'a créée depuis septembre 2021 et qui développe des matériaux acoustiques programmables. En fait, ce sont des matériaux qui ont des propriétés absorbantes qu'on peut piloter et qui marchent très bien en milieu ouvert. Donc, ça peut être dans un espace de bureau, dans une ventilation. On sait faire circuler de l'air, mais arrêter le bruit.
D'accord.
Et donc moi, je suis le président de la société, on est 4 cofondateurs et on a 2 salariés qui sont là depuis septembre dernier.
D'accord.
Donc on est en plein décollage.
Donc vous êtes jeune, mais vous avez déjà du monde à peine, enfin dès le début.
C'est ça.
Et ça a été fabriqué, vous êtes 4 cofondateurs, c'était vos travaux de recherche ouais. à tous ou c'était les tiens?
On est 3 cofondateurs issus du labo, donc
d'accord.
c'était une partie de mes recherches.
Ouais.
Et puis j'ai un associé plutôt business, Robin, qui vient compléter l'équipe et les compétences. On en parlera sans doute par la suite, mais la complémentarité de l'équipe joue beaucoup sur la suite du projet et la capacité à, voilà, à lever des fonds, notamment.
Bah, merci à vous trois pour ces infos sur vos projets et donc sur vos boîtes, maintenant qu'elles sont créées. On va aller tout droit dans le vif du sujet et cette grande question de comment est-ce que vous avez fait votre transition? Comment est-ce que vous vous êtes payé? Ça, je pense que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Je ne sais pas vous si vous l'êtes posé avant de démarrer ou si c'est quelque chose que vous avez plutôt géré un peu en route. Jérémy, je te vois, parce qu'on a la vidéo, nous, quand on enregistre le podcast, je te vois bouger la tête. C'est quelque chose que tu avais en tête dès le début?
Bah, c'est quelque chose à prendre en compte tout de suite parce qu'il faut bien, il faut travailler, mais il faut quand même vivre et pouvoir manger.
Manger, c'est bien.
C'est bien, c'est la première chose qu'on veut faire. Donc, je pense qu'il faut, c'est quelque chose qu'on a sous-estimé, nous, de notre côté.
Ouais.
Et parce qu'on a, on a été accompagné par la SAT, la SAT de notre région, donc on a pu se payer pendant 2 ans avec le projet de maturation. Mmh. Et ensuite, bah, y a le grand acteur Pôle emploi qui aide beaucoup aussi à la création d'entreprise.
Oui.
Et qui est vraiment là pour aider parce qu'il y a plusieurs dispositifs qui permettent justement de se financer pendant plusieurs années, toucher ses droits, même si on travaille dans la société. Ça, c'est possible en France et c'est très bien justement pour éviter qu'il y ait trop de charges qui pèsent de suite sur la société.
Ouais. Et la SAT, du coup, comment ça se passe? Parce que vous parlez de maturation, vous en avez pas tous les trois parlé, mais certains d'entre vous ont parlé de maturation avec la SAT. Donc, ils vous payent, vous êtes au labo en fait, en mode recherche sur le projet, mais développement du projet, comment ça se passe exactement?
Bah, c'est exactement ça. On était ingénieur au labo, on faisait tout ce qui était maturation technologique. Nous, on faisait de la synthèse, on faisait de la réputabilité de synthèse. Mmh. Je passais mes journées dans le laboratoire. C'est vraiment, ça change pas beaucoup de la thèse, je dirais.
Ok, c'est ça. Sauf que le but, in fine, c'est d'avoir le produit pour sa compagnie, quoi.
Bah, c'est aussi d'avoir des résultats. Ouais, avoir des résultats pour la techno, avoir des résultats aussi pour pouvoir déposer un brevet derrière,
ouais.
Puisque les SAT valorisent surtout les brevets des universités. Et ça aussi, c'est important pour la start-up. Pour pouvoir aller soit lever des fonds ou soit ne pas avoir concurrence sur le marché.
Et Swipe, toi, tu as fait comment?
Bah moi aussi, donc au début, c'était avec la maturation, donc c'était à peu près 1 an et demi. Moi, c'était un peu différent de Jérémy dans ce que je faisais au jour le jour. Donc moi, c'était un peu la continuité de la thèse, mais pas totalement, mm-hmm. parce qu'on avait déjà déposé le brevet pendant la thèse, et après, c'était vraiment plus avoir des premiers contacts marché. C'est-à-dire aller discuter avec des industriels, ouais. et voir si ce que nous on proposait comme techno, ça pouvait éventuellement les intéresser pour par la suite pouvoir accélérer. Donc voilà, donc on avait le financement donc qui passait à travers le laboratoire et donc on était payé en tant que postdoc.
D'accord.
Et donc on a quand même son mot à dire, on va dire, sur le financement, voilà, en tant que porteur de projet. Et donc voilà, donc à ce moment-là, on est plutôt bien encore. Après, bien sûr, comme l'a dit Jérémy, quand ça se termine, voilà, on fait appel au grand acteur dont il a parlé, qui est Pôle emploi. Je crois que c'est un passage obligé. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Mais après, très vite, quand on est passé en incubation, qu'on a créé, là, on a trouvé d'autres leviers pour pouvoir se payer. Voilà.
Et toi, Gaël, Pôle emploi également?
Pôle emploi également, c'est vrai que c'est l'incontournable. Au début, j'espérais ne pas passer par là parce que, après la thèse, on enchaîne un peu les post-docs. Moi, dans mon cas, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à travailler sur la technologie pour préparer la start-up pendant 2 ou 3 ans au laboratoire.
En post-doc, du coup?
Et c'est vrai qu'en post-doc.
Et là, payé en tant que post-doc ou payé en.
Là, payé en tant que post-doc.
SAT. D'accord.
Donc, moi, c'était pas la SAT, c'était directement le labo. Et,
okay.
Et c'est vrai que quand ça se termine, au moins, comme on a cotisé, on a droit à Pôle emploi pendant 2 ans.
Mm-hmm.
Donc, c'est quand même long et ça permet de voir venir. Et ça épargne la trésorerie de l'entreprise parce que c'est, pour tous les gens qui nous écoutent et qui vont lancer une entreprise, la trésorerie devient une notion très concrète.
Je confirme.
Et elle se vit tellement plus vite qu'elle ne se remplit. Donc, c'est vrai que là, Pôle emploi, c'est l'occasion d'avoir des revenus plus faibles, mais des revenus qui sont suffisants pour subvenir à ses besoins élémentaires. Donc, il ne faut pas s'en priver, quoi. Donc, moi, je suis passé par ça aussi. Une fois que l'entreprise est créée, c'est un peu différent parce que, surtout quand on a un doctorat, il y a plein de dispositifs. On parlera par la suite. Le crédit impôt recherche, par un dispositif qui permet, quand on n'a jamais eu de CDI et qu'on a un doctorat, de faire prendre en charge son salaire de R&D par le crédit impôt recherche. Donc ça, c'est un dispositif assez incroyable. Cocorico et vive la France pour ça, parce que entre Pôle emploi et ça, ça permet vraiment de couvrir les besoins en salaire de l'équipe scientifique fondateur, on va dire, sans impacter la trésorerie de l'entreprise.
Ça a l'air vraiment bien. Tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais. Donc, il y a 2 choses différentes. Donc, le premier CDI d'un docteur, en fait, peut être déduit. Donc, le salaire du docteur en question peut être déduit de l'entreprise, donc remboursé sous forme de crédit d'impôt.
Mm-hmm.
Et il y a une bonification, ce qui fait que si on passe 100% de son temps sur de la recherche et développement, il y a 120% du salaire qui est couvert. C'est-à-dire que c'est même une opération qui peut, sous certaines conditions, rapporter de l'argent à l'entreprise. Alors évidemment, on ne passe pas 100% de son temps sur de la R&D quand on lance une entreprise.
Oui.
c'est moins. Mais quand même, ça permet d'atténuer le choc de trésorerie pour l'entreprise et quand même soi-même de pouvoir avoir un revenu parce que Pôle emploi, ça dure 2 ans, c'est long,
ouais.
Mais ça passe très vite.
Ça passe, c'est ce que j'allais dire, 2 ans quand tu montes ta boîte, c'est long et court à la fois.
C'est ça. Ça moi, dans mon cas, ça a permis de faire la transition entre le labo et la création pendant la phase d'incubation.
Ouais.
Parce qu'en fait, il y a une autre notion qui est importante, c'est que tant qu'on est salarié du laboratoire, tout ce qu'on développe appartient au laboratoire. Donc, quand on lance une société, il y a un moment où ça pose un souci parce qu'il faut bien pouvoir avoir la propriété de ce qu'on a développé. Et donc, c'est là où on ne peut plus rester salarié du laboratoire, même si on trouve des financements, il faut se payer autrement. Et ça, c'est un élément vraiment important, hein, donc la propriété intellectuelle de ces travaux. Et ben, Pôle emploi permet justement de continuer, en tout cas de faire cette transition et le passage de flambeau du laboratoire vers la start-up. C'est un élément qu'il faut vraiment garder à l'esprit.
Jérémy, soyez-vous, vous avez utilisé... Ouais, vas-y.
Moi, j'aimerais juste rebondir un peu sur le crédit impôt recherche. C'est vrai que c'est un incroyable dispositif, mais il faut aussi avoir en tête qu'il faut avoir la trésorerie quand même. Il faut déjà avancer le salaire. Voilà. Donc, c'est pas non plus si simple à activer. Voilà, il faut penser à ça. Et puis moi, je voulais juste rajouter une petite chose, en fait, sur un dispositif qu'on a spécifiquement, je pense, en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est qu'après mon postdoc, en fait, la région propose au docteur qui crée une entreprise, en fait, une bourse de 6 mois. Qui s'appelle Doct Aura, donc voilà, et qui permet justement de se financer pour 6 mois. Donc c'est un dispositif dont j'ai bénéficié et qui m'a permis aussi de faire cette transition plus facilement. Donc je ne vais pas rester si longtemps que ça à Pôle Emploi grâce à ça. Voilà, donc donc au final c'était assez supportable. C'était quand même assez confortable, on va dire, pour un entrepreneur.
Est-ce que vous avez d'autres financements comme ça là en tête qui aident bien, Jérémy, peut-être?
Oui, après, il y a tous les financements de BPI France, hein, il ne faut pas oublier, il y a toutes les bourses. Nous, on n'a pas pu bénéficier, mais je sais qu'il y a une bourse spéciale IPHD. Je pense que Gaël pourra en parler plus puisqu'il a obtenu. Nous, on a obtenu la bourse French Tech Emergence, donc on a obtenu 90 000 euros de BPI, donc qui aide beaucoup pour la trésorerie et qui permet aussi d'enclencher justement avec des prêts d'honneur, des prêts bancaires, parce que les banques aussi ont leur rôle à jouer. Et qui permet justement de consolider la trésorerie et de pouvoir se payer beaucoup plus que Pôle emploi. Et en même temps, pouvoir faire du CIR, d'avancer le CIR et de pouvoir le récupérer l'année prochaine.
CIR, c'est crédit impôt recherche. Hein.
Oui, pardon, ouais. C'est crédit impôt recherche. Ouais.
Je pars à la traque aux acronymes toujours.
Je voudrais juste rajouter un petit truc sur le CIR. Il ne faut pas oublier que le CIR, on ne récupère que 30% des dépenses. C'est ça qui est important.
Alors,
et des dépenses aussi bien en salaire qu'en fonctionnement, que sur tout ce qui peut être brevet et tout ce qui est norme.
Tu peux nous donner un exemple un peu concret?
Nous, par exemple, dans l'entreprise, on a racheté le brevet.
D'accord.
Donc, le brevet, je vais déclarer là mon CIR de 2021, je le déclare bientôt, là, je vais le faire dans les semaines qui suivent. Je vais dire, ce brevet-là, je vais l'utiliser sur 5 ans, il valait tant, je vais pouvoir mettre une somme dans mon crédit d'impôt recherche.
D'accord.
Par exemple, je vais dire, il faut 30 000. Et si je fais le calcul du crédit d'impôt recherche, on récupère 30% de 30 000. Hein.
Ok.
Juste, je ne sais pas si tu as saisi, Elodie, la différence entre le 30% dont parle Jérémy et le 120% dont parle Gaël.
C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il y a une différence entre ce qu'on récupère, du coup, et le CDI. C'est ça, il y a deux choses différentes, le crédit d'impôt recherche.
Ouais, c'est ça.
Il joue sur deux choses différentes.
Ouais, c'est exactement ça. Dans le salaire d'un jeune docteur pendant 2 ans, hein, c'est pas valable à vie.
Ouais, c'est ce que je gagne.
On bonifie en fait le salaire du jeune docteur. S'il gagne 100 000, on peut dire non, c'est pas 100 000, c'est 200 000 et on récupérera 30% de 200 000 au lieu de 100 000.
D'accord.
Voilà. Après, moi j'aimerais rajouter une petite chose, peut-être c'est un peu spécifique à mon cas. C'est que quand on veut créer une entreprise, en fait, il faut apporter du capital. Et donc ça peut être compliqué, parce que c'est quand même une somme non négligeable. Et après un doctorat, c'est pas forcément facile d'aller la chercher. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on peut utiliser un dispositif avec Pôle emploi où on peut utiliser une partie de ses droits pour l'injecter dans le capital. Donc,
d'accord.
Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, s'il y a besoin d'aller chercher du capital, ça peut être une façon de faire, mais c'est quelque chose qu'on obtient après la création. Donc, c'est pas avant.
Ouais.
Donc, voilà. Donc, c'est des choses, auxquelles on peut avoir droit et dont j'ai mis en place.
Quel est le nom de ce dispositif?
On peut faire les deux. Hein.
C'est l'ARCE.
L'ARCE.
Ouais. À pas confondre avec l'ARCE, parce qu'ils ont deux dispositifs qui portent presque le même nom, je sais pas l'emploi.
D'accord.
Et sachant qu'ils prennent, je crois que c'est 45% de la somme des 2 ans. De ses droits, je recommence.
D'accord. Et Gaël, tu disais on peut faire les deux, c'est-à-dire on peut avoir ses droits.
Oui, c'est-à-dire que moi j'ai eu ça aussi. Donc pendant un temps j'ai eu mes droits avant la création de la société. Donc j'avais Pôle emploi qui me versait des indemnités mensuelles. Et à partir du moment où la société est créée, on peut récupérer la fin de ses droits au chômage. Donc moi il me restait quasiment un an, qu'on peut convertir en capital qui est versé en deux fois. Alors on récupère pas tous ses droits restants, c'est-à-dire que Pôle emploi en verse en gros la moitié et garde l'autre moitié au cas où, si jamais malheur, la société fait faillite, il reste un petit reliquat de droits au chômage pour ne pas finir à la rue tout de suite. Et attention aussi, ça compte comme un revenu, ce capital qui est versé. Donc faut pas l'oublier quoi. Voilà. Attention aux impôts. Voilà. Alors il y a des solutions qui existent pour dégrever plein de choses, notamment quand on investit de l'argent dans sa société. L'argent qu'on met à la création, enfin quand on achète des parts de sa société, peut être sous certaines conditions déduit de ses impôts. Donc après c'est tout l'art de réussir à canaliser le maximum d'argent vers la société, parce que c'est ce qu'on cherche à faire dans l'histoire, avoir un salaire pour vivre, mais quand même avoir le maximum de fonds propres et de trésorerie pour développer l'entreprise, tout simplement. C'est pas pour s'enrichir personnellement, c'est vraiment pour maximiser le décollage. Donc voilà, une personne en plus, par exemple, ça change complètement, la vitesse d'exécution du projet. Et seulement une personne en plus, c'est 30 ou 40 000 euros par an, donc il faut les trouver.
Est-ce qu'on peut faire une rapide timeline récapitulative de ce que vous avez eu? En gros, on va peut-être commencer par Swahib.
Alors, moi, j'ai eu, pour commencer, donc la SAT avec la maturation. Ouais. Ensuite, la bourse doctorat, qui est une bourse régionale, Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, je suis passé à Pôle emploi. Donc là, j'ai eu mes droits, comme Gaël l'a expliqué, j'ai eu mes droits pendant un certain temps. Et ensuite, j'avais un reliquat que j'ai utilisé pour le capital de ma société, quand on l'a créé. Voilà. Et ensuite, ça a permis d'avoir un capital qui a permis d'enclencher la machine. Et aussi, on a obtenu, juste après, la BFTE, la Bourse French Tech Emergence, donc 90 000 euros dont parlait Jérémy. Ça nous a permis d'embaucher notre premier salarié. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est enchaîné.
Et après, tu as commencé à te payer avec la boîte.
Voilà, j'ai commencé à me payer avec la boîte et donc là après c'est à voir ce qui est le mieux pour nous et pour la société aussi, voilà, parce que on doit être bien aussi, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pas non plus se priver, c'est qu'il faut être bien pour être à 100% pour le projet. Il faut quand même garder, comme a dit Gaël, cette notion de c'est pour le projet quand même, faut que le projet avance, mais il faut aussi pouvoir avoir de se sentir à l'aise dans ce projet là. Voilà.
Tout à fait. Et Jérémy, ta timeline à quoi?
Ça a été un petit peu pareil, ça a été fin de thèse, après maturation avec la SAT. Il y a eu l'incubateur, mais les incubateurs ne donnent pas forcément de salaire. Mm-hmm. Pôle emploi, et moi j'ai utilisé tous mes droits.
Ouais.
Par exemple, on a créé au mois de novembre 2020 et mes droits s'arrêtaient au mois de mai 2021.
D'accord.
Donc il restait 6 mois et en 6 mois, récupérer 50% de 6 mois, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Donc j'ai dit on les garde et puis après, à partir du mois de mai 2021, je me suis payé avec l'entreprise puisqu'on avait obtenu la bourse French Tech Emergence. On avait obtenu des prêts d'honneur auprès de France Initiative ou du réseau Entreprendre et on avait obtenu notre prêt bancaire. Donc, on avait un petit peu validé toutes les étapes et rassemblé pas mal de fonds. Donc là, on s'était dit maintenant, on peut se payer, surtout qu'on n'avait plus rien derrière de toute façon.
Ok. Et Gaël ?
Et moi un peu pareil, hein. C'est-à-dire que au laboratoire j'ai eu alors c'était pas de la maturation avec la SAT, c'était de la prématuration qui était financée par la région Bourgogne-Franche-Comté. Après j'avais eu un postdoc chercheur qui s'appelle itinéraire chercheur entrepreneur d'un an qui était fait pour faire la transition. Après Pôle emploi pendant un an pendant l'incubation et puis maintenant payé par la société. Il y a un point important que je voudrais quand même souligner et qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a une différence entre la trésorerie et avoir des fonds propres ou ce qui est considéré comme des fonds propres. Parce qu'il y a beaucoup d'aides publiques quand on démarre. Nous, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, on a des aides qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros sous forme d'avances remboursables, sous forme de prêts, mais qui nécessitent d'avoir des fonds propres. C'est-à-dire qu'on vous donne jamais plus que ce que vous avez déjà.
D'accord.
Et en fait, c'est facile de trouver de la trésorerie au début. On peut faire un emprunt, on a de l'argent. Mais ça compte pas comme des fonds propres. Et c'est là que parfois, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, il faut mettre de ses fonds personnels ou emprunter personnellement pour convertir un peu l'argent qu'on met dans la société en ce qui compte pour des fonds propres. Et c'est là qu'il y a un autre élément qui rentre en compte, c'est que quand on s'endette, on commence à s'exposer financièrement pour l'entreprise, mais à titre personnel. Et donc évidemment, il faut chercher à faire le moins possible ou le plus raisonnablement possible. Ouais. Et là, il y a vraiment un compromis à trouver entre les engagements qu'on prend à titre personnel, la rémunération qu'on se verse par l'entreprise et évidemment l'objectif final qui est pour l'entreprise d'avoir le maximum de fonds propres et de trésorerie. Donc il faut trouver un équilibre et c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent et qui dépendent des régions en plus. Oui. Donc faut pas sous-estimer le millefeuille, en tout cas le côté tentaculaire de ça. Ça prend quand même beaucoup de temps, de ne serait-ce que de d'apprendre l'existence des dispositifs.
C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui justement.
Donc il faut aller voir la région, il faut aller voir son conseiller BPI France local, il faut aller voir les AER, il faut aller voir les CCI.
Alors attends,
il faut aller
là,
voir les réseaux entreprendre. Voilà.
Les AER et les CCI, c'est quoi?
C'est donc l'AER, c'est l'agence économique de région, qui est un service public, donc qui est là pour accompagner les entreprises. Les CCI, c'est les chambres de commerce et l'industrie. Donc ça, c'est côté service public. Il y a évidemment des associations qui sont là pour aider les entrepreneurs. Donc il y a BGE, il y a Réseau Entreprendre, il y en a plusieurs. Hein. Et chacun de ces intervenants a systématiquement au moins une ou plusieurs aides qui s'activent sous certaines conditions. Certaines peuvent être cumulées, d'autres non. Donc, faut prendre le temps de digérer tout ça. Ouais. Et donc, il faut pas tarder. Il faut dès le début aller à la rencontre de ces organisations-là, connaître les gens, se faire connaître. Et ça, c'est vraiment nécessaire pour après actionner ce qu'il faut pour se payer. Mais ça prend beaucoup de temps, donc attention. travail de terrain en perspective, c'est nécessaire et c'est très chronophage.
Jérémy, tu veux ajouter quelque chose ?
Ouais, je voulais ajouter sur quelque chose sur ces différents dispositifs parce qu'en plus, souvent, il faut les actionner un petit peu dans l'ordre. Okay. Nous, je sais que je suis dans la même région que Gaël, en fait, on est en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a un outil qui s'appelle la Prestaino. C'est le premier outil qu'il faut faire parce que si on a déjà eu des fonds d'innovation, on ne peut plus l'activer.
D'accord.
C'est une petite subtilité, mais il faut le savoir. Et pour savoir ça, il faut quand même se rapprocher des incubateurs ou même des agences, des AER, des agences économiques régionales, parce qu'ils connaissent un petit peu toutes ces tours de passe-passe.
D'accord.
Pour essayer justement de récupérer un maximum de fonds, le mieux sous forme de subvention, et après, si possible, sous forme d'avance remboursable. Par exemple, je sais que nous, notre région, hein, on a eu un prêt régional, on ne le rembourse que dans 3 ans.
Okay.
On peut commencer à faire croître la société, chercher nos clients, faire du chiffre avant de pouvoir rembourser.
Et les SAT,
le maître mot, c'est trésorerie. Hein.
Trésorerie, et puis
c'est
surtout
trésorerie. C'est,
et si prendre en avance Swipe, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à tout ça? Peut-être un financement dont on n'a pas parlé ou un contact à aller voir?
Non, parce que nous aussi, après, moi, j'ai des. Ça, c'est un peu plus personnel. Donc, moi, je suis issu d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Télécom Paris. Et en fait, on est parti se faire incuber là-bas. Et ça nous donne accès à des prêts d'honneur, en fait, un peu spécifiques du réseau et sur lesquels, en fait, moi, je peux postuler où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc, on est en train de monter ce dossier-là. Donc voilà, il faut aller chercher. Il faut pas hésiter à aller chercher le financement un peu partout. C'est clair que la trésorerie, c'est tous les jours. Quand on entreprend, c'est quelque chose qu'on surveille avec attention.
Oui.
La trésorerie, et ça, comme le dit Gaël, ça décroît assez vite. Voilà.
Jérémy.
Ouais, mais attention à ces prêts d'honneur parce qu'il faut pas oublier que ce sont des prêts. Il faut penser à les rembourser derrière. Et par exemple, moi, je rembourse déjà 800 € par mois de prêt d'honneur.
Ok. Ouais, c'est différent d'une subvention, effectivement.
Ouais, c'est différent d'une subvention et ça fait mal au portefeuille quand même. Hein.
Est-ce qu'il y a des contacts à aller voir ou des associations ou des regroupements dont on n'a pas parlé qui sont intéressants pour trouver des prêts, des subventions, des financements? On en a dit beaucoup là, je vais les mettre en description, je mettrai les liens de tout.
Ouais, au niveau national, il y a France Initiative. Souvent, c'est nous, c'est Initiative Côte d'Or parce qu'on est dans le département 21 et c'est souvent lié au département. Il y a le réseau Entreprendre Bourgogne, c'est par région, ça
D'accord.
se fait.
Okay.
Il y a après tout ce qui est AER, bon, c'est niveau régional. BGE, c'est aussi au niveau régional. CCI, c'est au niveau régional. Il y a aussi les chambres de métiers parce que certaines activités peuvent dépendre de la chambre de métiers.
Et BPI.
Et BPI, bien sûr, BPI, c'est un acteur incontournable pour les startups, surtout deep tech. Il ne faut pas l'oublier.
Et globalement, quasiment toutes les aides régionales passent par BPI.
Ouais, derrière, c'est BPI.
Ce qui peut être problématique des fois, parce qu'on vous donne toujours, enfin, on vous donne jamais beaucoup plus que ce que vous avez déjà. Et donc, les fonds propres que vous avez dans la société qui servent, c'est-à-dire, par exemple, on va vous donner 60 000 € de subvention et vous devez mettre 40 000 € en face. Cet argent que vous avez dans la société, on ne peut pas l'utiliser deux fois comme garantie.
Ouais.
Et donc, quand plusieurs aides sont gérées par BPI, on ne peut pas utiliser le même euro deux fois de suite pour eux. Donc, parfois, c'est problématique parce qu'il peut y avoir beaucoup d'argent d'aide disponible, Mais si on n'a pas les fonds propres pour pouvoir financer en face, eh ben, on n'y a pas accès. Et c'est un peu cruel des fois, parce que c'est de l'argent qui est utile, qui est nécessaire et qui est bon marché, mais il faut avoir des fonds propres. Et la seule façon d'avoir des fonds propres quand on lance la société, parce qu'on n'a pas un exercice révolu, hein, on n'a pas de bénéfices pour faire de l'autofinancement, c'est l'argent qu'on met dedans personnellement. Donc qu'on bloque, c'est ce qu'on appelle en compte courant d'associé. Donc vous mettez de l'argent, vous prêtez de l'argent à la société et vous le bloquez. Donc ça compte comme des fonds propres. Mais c'est de l'argent qu'il faut avoir soi-même. C'est ça le principe du prêt d'honneur. Hein, c'est que voilà, faut avoir un petit peu d'argent. Donc emprunter avec un prêt d'honneur, ça permet de convertir l'argent qu'on met dedans en fonds propres. Et derrière, par plein d'effets de levier, ça permet d'avoir accès à de l'emprunt bancaire pour la société. Ça permet d'avoir accès à des subventions. Ça permet d'avoir accès à beaucoup de choses. Mais à un prix qui est qu'on s'expose quand même financièrement de façon parfois un petit peu dangereuse.
Swipe, ouais. Ah non, c'est Jérémy.
Ouais, vas-y, Jérémy.
Souvent, on prête un euro pour un euro. C'est ce qu'on dit, nous, dans notre région. Ouais. J'ai 10 000 euros, bah, la région te donne 10 000 euros.
Okay.
C'est pas beaucoup. Si tu arrives avec 100 000, bah, tu récupères 100 000 aussi. Mm-hmm. Juste une petite nuance, il y a certains concours d'innovation de BPI France qui ne sont pas en fonction des fonds propres.
Et là, ça, c'est par plutôt... exemple, non ?
Avec là, par exemple, ouais, c'est vraiment, on peut récupérer beaucoup et ça ne dépend pas des fonds propres. Okay. Et d'autres concours comme iNov, qui est le suivant, bah, lui, va dépendre des fonds propres.
Ok. Swipe, tu voulais rajouter un truc ?
Voilà, moi, je voulais rajouter un moyen de se financer qui est le moyen le plus normal pour une entreprise de se financer, c'est de faire un peu de chiffre d'affaires. Voilà. donc, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des partenariats en fait, avec des industriels. Mais après, c'est projet qui peut le permettre ou pas. Hein, donc
oui,
ça dépend.
Bah oui.
En fait, avec des industriels, on essaie un petit peu de demander un petit peu des sous, en fait, pour pouvoir justement avoir ses fonds propres. C'est pas, et en plus, c'est, ça permet aussi d'être légitime en fait des investisseurs quand on va devant eux ou même devant iLab, hein, de dire qu'on arrive à faire du chiffre d'affaires. Donc, c'est pas énorme, mais ça permet d'avoir des fonds propres. Et donc, voilà, quand on a des fonds propres, ça permet de faire effet de levier. Et donc, c'est une façon aussi d'aller chercher des financements. Donc, nous, on fait ça. On a réussi à avoir ce levier-là. On a réussi à avoir un partenaire de recherche avec un petit peu de budget et ça nous permet justement d'avancer un peu plus tranquillement. Mais voilà, il faut aussi que ce projet soit dans le cadre du futur produit qu'on veut lancer. Sinon, ça dévie un petit peu. Voilà, voilà, il y a aussi ce côté-là.
Gaël, tu voulais rajouter quelque
chose ? Oui, bah, petit message aux gens qui nous écoutent. N'ayez aucun scrupule à vendre des choses qui ne sont pas finies, à vendre des briques technologiques, à vendre du... Vraiment, n'hésitez pas. Parce que des fois, surtout quand on sort d'un labo, on se dit, bon, bah, je vais d'abord finir mon produit pour que tout soit parfait, puis après, on ira le vendre. Grosse erreur. Essayez de vendre dès le début. Parfois, on arrive à vendre des briques technologiques qu'on développe pour soi-même, donc c'est pas une grande distraction, parce que c'est ça le danger. Hein. C'est-à-dire que si on fait une petite un contrat d'études pour se financer, bah, pendant qu'on fait ça, on développe pas forcément le projet central. Mm. Donc vraiment, essayez par tous les moyens de trouver des gens qui ont un besoin plus simple, d'essayer de vendre une partie de ce que vous faites. Vraiment, ça rapporte sans trop de difficulté quelques milliers d'euros. Et comme vous allez tous le découvrir, ben quelques milliers d'euros, ça couvre les frais de comptable, les frais de cotisation, enfin toutes les charges, qui vient un peu gréver la trésorerie, toutes les charges qui financent des choses très très bien et honorables. Mais quand on a peu de trésorerie, c'est vrai que c'est confortable d'avoir des petites rentrées d'argent. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à chercher à vendre ce que vous êtes en train de faire maintenant, même si c'est pas fini.
Alors, merci Gaël, justement, j'allais passer sur, c'est la fin de ce podcast, et j'allais vous demander à vous trois un conseil sur comment se financer, donc pas forcément un financement, mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un voilà, qui est en train de monter son projet concernant les financements ? Swahib ou Jérémy ?
Bah, je peux commencer. Bah, en fait, c'est vrai que c'est un peu nébuleux au fait, quand on sort un petit peu de la thèse sur comment se financer en tant qu'entrepreneur. C'est vrai qu'il y a des petits moments difficiles, mais voilà, il y a beaucoup d'aides, ça se fait très bien. Ouais. Et en fait, on est même bien, en fait, hein, faut pas croire, peut-être mieux que si on faisait un postdoc. Voilà. Et donc, et en plus, on a aussi un certain, on a notre mot à dire, en fait, sur vraiment comment on se finance. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose c'est une satisfaction, en fait, qui est pas mal, voilà, de dire que c'est nous qui pouvons un petit peu contrôler un petit peu comment on décide de se financer, de faire avancer le projet. Voilà, donc c'est quelque chose que moi je dis, il faut y aller, quoi, comme tout le monde dit, faut pas hésiter. C'est pas être difficile parfois, mais au final ça se passe plutôt bien.
Jérémy,
je pense qu'il faut être bien accompagné. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Il faut être bien accompagné, surtout par un bon comptable. Parce qu'on est une start-up deep tech, donc les temps de vente peuvent être très longs. Même si je suis d'accord pour dire qu'il faut qu'on vende les briques élémentaires. Si vous en avez, n'hésitez pas à les vendre. Mais être bien accompagné par un comptable qui connaît aussi la région, qui connaît l'univers startup, ça, c'est très, très, très important.
Et Gaël ?
C'est une aventure difficile. Ouais, on va le répéter quand même parce qu'il faut le savoir. Mais les satisfactions sont à la hauteur des difficultés. Donc ça, il faut aussi le rappeler. C'est quand même sympathique. Il faut y aller. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a créé la société, on n'a plus le choix, en fait. Et finalement, paradoxalement, c'est moins stressant une fois que c'est lancé parce qu'il n'y a plus à réfléchir. J'y vais pas. Une fois que vous êtes lancé, c'est comme dans une piste de ski, on y est. Donc, on essaye d'arriver en bas en un seul morceau. Et finalement, ça facilite un peu les choses. Donc, y aller et bien s'entourer. En tout cas, ne pas être seul.
Ouais.
Partager ses doutes. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal de trouver ça difficile. On passe tous par là et on a tous des doutes en permanence. Ceux qui disent l'inverse, c'est pas vrai. Donc parlez-en à votre famille, entourez-vous bien parce que vraiment c'est une aventure où humainement il faut tenir. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc il y a des moments, il faut aussi savoir se reposer un peu. Il y a des moments, il faut savoir, faut vraiment apprendre à gérer ses ressources. Voilà. Donc entourez-vous bien
et je dirais aussi parler avec d'autres chefs d'entreprise qui sont dans le même cas que vous. Ça aide beaucoup. Nous avec Gaël, on se connaît bien, donc on échange beaucoup des fois par téléphone sur des problématiques qu'on a déjà eues. Donc ça aide aussi, c'est plus simple. Ah bah oui, et puis ça rassure aussi. Ah, t'as déjà eu cette problématique. Bah oui, c'est une problématique en fait qui est générale, qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Donc on peut facilement échanger ensemble.
Je suppose que ça a dû vous aider du coup à IPHG, parce que ça vous a fait rencontrer plein d'entrepreneurs qui étaient dans les mêmes situations que vous au final.
Oui, ça aide beaucoup, ouais. Et même d'autres entreprises qui ne sont pas forcément entrepreneurs deep tech ou dans la technologie, c'est les mêmes problématiques. Tout ce qui va être ressources humaines, c'est quand même une problématique. Nous, aujourd'hui, on est 8. Ça commence à faire beaucoup de traction. Et bon, on s'entend tous très bien, mais il faut quand même gérer tout ça, quoi.
Alors, on arrive vraiment, vraiment à la fin. C'est tellement une discussion passionnante que c'est dur de finir ce podcast. J'avais une question bonus. Est-ce que le fait d'avoir eu le concours IPHD, ça vous a aidé avec les financements après ? Ouais, Gaël ?
Complètement. Déjà, la bourse French Tech Personne Physique, quand on est lauréat IPHD, il faut savoir que c'est une bourse de 30 000 euros qui est subventionnée à 90% par BPI. Donc, en fait, ça, on l'a pas si on n'est pas lauréat IPHD. Donc, ça change tout là-dessus. Et sur l'exposition médiatique, incroyable. Ça change d'avis.
Jérémy ?
Et attention, il ne faut pas être créé trop tôt pour avoir la bourse spéciale IPHD. Nous, en fait, on s'est créé trop tôt et la bourse est sortie après. On s'est fait un petit peu avoir.
Voilà, donc moi, je suis dans le même cas que Jérémy. Donc voilà, on n'a pas pu en bénéficier. Mais je vais aussi rejoindre Gaël sur l'exposition médiatique. Clairement, moi, ça m'a permis, en fait, justement de recruter, je pense, le CEO. Voilà, ça légitimait ma position. Et donc, le CEO, c'est quelqu'un qui a déjà entrepris. En fait, voilà, j'ai vraiment avec moi quelqu'un qui a déjà créé une boîte, qui a déjà managé des salariés. Donc, en fait, c'est assez facile, on va dire, d'évoluer avec lui. On a beaucoup moins peur, voilà, quand on a un associé qui connaît déjà ça. C'est aussi important aussi d'aller chercher le bon associé pour l'aventure.
Écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment un épisode passionnant. Merci d'avoir partagé tous vos conseils et votre expérience sur les financements. On va vous abandonner. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, Swahib. Et merci beaucoup, Gaël. Et je vais mettre vos liens, les liens vers vos boîtes et les liens vers vos profils LinkedIn pour qu'on puisse vous contacter.
Ouais, il ne faut pas hésiter. On peut toujours aider si on peut.
Super, merci beaucoup. En tout cas, je pense que déjà tous ces conseils ont beaucoup, beaucoup aidé. Et à bientôt sur LinkedIn.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir. Voilà, ça y est, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. C'était un podcast Beyond Research pour BPI France. À bientôt.